de la question. D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous demander pourquoi les zèbres ont des rainures, les girafes un si long cou et les hyènes femelles des pénis. Comment les bousiers s'orientent-ils grâce à la voie lactée? Pourquoi les buffles vivent en démocratie et les éléphants en dictature? Questions improbables qui sont autant de pistes défrichées aujourd'hui par les chercheurs en biologie évolutive et que notre invité, le biologiste et blogueur Léo Grasset, nous fait partager pour notre plus grand plaisir dans un livre, Le cou de la girafe, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Et dans ses vidéos de dirty biologie, de la biologie un peu salace, de la science carrément loufoque, au programme aujourd'hui autour de la question « Pourquoi les zèbres ont des rayures ?» Ben oui, pourquoi? Bienvenue. Bonjour Léo Grasset.
Bonjour.
Merci d'avoir profité de votre passage à Paris pour être en direct avec nous sur RFI. Vous êtes aujourd'hui basé à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, où vous réalisez vos vidéos de dirty biologie, donc des petits morceaux d'anthologie visibles sur YouTube, on y viendra. Vous êtes titulaire d'un master en biologie et c'est sur le terrain, dans le parc du Wangé, au Zimbabwe, que vous avez commencé à vous intéresser à toutes ces questions de science loufoque que se posent les chercheurs sur les animaux, que vous nous faites partager dans ce livre, Le cou de la girafe, qui vient de paraître aux éditions du Seuil. Vous-même, Léo Grasset, donc au Zimbabwe, vous avez commencé par étudier le comportement des zèbres en lien avec leurs rayures, c'est bien cela?
C'est ça, exactement. Est-ce que les rayures des zèbres sont un signe de la personnalité des zèbres?
Et alors?
Non. Pour l'instant, je pense que non. Le meilleur résultat, c'est non.
Le meilleur résultat, c'est non. Alors, au passage, vous avez aussi croisé d'impressionnants éléphants sur le terrain.
Ah oui. Très très gros mâles qui font presque 5 tonnes. C'est plus gros que la voiture. C'est assez...
Et ça suscite d'autres questions peut-être, d'où l'idée de ces chroniques de science loufoque. Au fond, c'est quoi? C'est de faire passer la science et les questions que posent et se posent les chercheurs dans la savane avec les animaux?
Voilà, c'est vraiment, on prend n'importe quel animal et on se rend pas compte, mais en fait derrière, il y a tout un tas de questions, d'hypothèses, de pistes de recherche possibles qui peuvent être voilà déficelées, on peut tirer dessus et en fait, il y a tout un fil qui sort, tout un fil de questions. Un éléphant qui en apparence a l'air tout à fait anodin. Non, en fait, un éléphant, ben, il transmet des séismes par les pieds. Wow, c'est impressionnant.
Des tremblements de terre par les pieds, on va y venir. Hein. Autour de la question, pourquoi les zèbres ont des rayures? On ne va pas répondre tout de suite. On garde le suspense en commençant par quelques pistes de réflexion sonore ouvertes par les savants, mais pas seulement par les savants. Dans la savane, c'est le mix animal de Guillaume Ploquin.
La savane africaine. L'un des lieux emblématiques de la vie sauvage, avec ses hôtes de toujours.
Regarde, Simba, toute cette immensité baignée de lumière est notre royaume.
Pourquoi est-ce que le roi lion nous a trompés et à quel point nous a-t-il trompés?
Voilà, Léo, est-ce que tu peux nous expliquer?
Non.
C'est quoi la différence entre un zèbre et un éléphant?
Les rayures.
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures?
Bien sûr, c'est une question qui peut paraître incongrue.
Le rire de la hyène n'a rien à voir avec notre rire à nous. Hein. La hyène qui émet ce giggle, ça n'est pas du tout en train de rire.
Le chef du clan Plastron. Gorgé de testostérone, son pénis se balance avec arrogance. Mais ce chasseur démonstratif a un secret. C'est une femelle.
Pourquoi les éléphants vivent-ils une dictature tous les jours de leur vie? Et qu'est-ce que ça nous raconte sur le fait de prendre des décisions en groupe?
En fait, les corbeaux sont pas les seuls exemples de capacités cognitives. Les éléphants sont capables de se reconnaître dans la glace.
Quand les animaux acquièrent des compétences, c'est souvent parce qu'un chercheur a pensé à leur poser une question qui était inédite.
Ce qui est remarquable, c'est qu'ils transmettent leur culture, en quelque sorte.
Qu'est-ce qu'un ratel et pourquoi est-ce que c'est l'animal le plus badass de la biosphère?
Ces deux girafes de l'espèce Maasai sont des mâles. Quand on a la tête perchée à plus de 5 mètres du sol, on repère facilement les dangereux carnivores. C'est l'un des avantages de cette morphologie insolite.
Ce qui est intéressant, évidemment, ça semble aller dans l'idée lamarckienne que l'évolution est conduite par l'usage et le non-usage.
Et donc, la recherche sur les rayures de zèbre, où est-ce que je veux en venir?
Léon Grasset, la recherche sur les rayures de zèbres sans répondre à la question pourquoi les zèbres ont-ils des rayures, où est-ce que vous voulez en venir, vous voulez réagir à ce que vous venez d'entendre?
Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est super intéressant parce que on est en 2015 et on sait toujours pas pourquoi les zèbres ont des rayures. C'est rigolo quand même. On a réussi à envoyer des hommes sur la Lune, on envoie des sondes sur Mars, mais on ne sait pas pourquoi les zèbres ont des rayures.
Et est-ce qu'on sait pourquoi, puisque c'est le titre de votre livre, pourquoi les girafes ont des si longs coups? Votre livre s'appelle Le cou de la girafe.
Oui, là par contre, on a quand même une assez bonne idée, oui. En fait, il y a eu un débat scientifique sur, comme toujours, mais maintenant on est à peu près sûr que effectivement c'est bien pour, entre guillemets, elles ont été favorisées pour manger en hauteur. Dans les périodes en particulier où il y a beaucoup de compétitions avec d'autres herbivores comme les koudous ou les impalas.
Des genres d'antilopes.
Voilà, des genres d'antilopes, oui, pardon. Et eux, ils mangent donc plus bas. Mais il y a quand même de la compétition avec ces herbivores. Donc, de génération en génération, les girafes qui avaient un cou un petit peu plus long que les autres étaient sélectionnées, pouvaient faire plus de bébés, et leurs bébés pouvaient faire eux-mêmes plus de bébés, etc., etc. Donc on a ainsi vu le cou s'étirer de génération en génération.
Le cou des girafes.
Le cou des girafes.
Et pourquoi les vaches ont des cornes, ou plutôt les hyènes femelles ont-elles des pénis? C'est bien ça, hein?
Alors, les vaches ont des cornes, c'est facile. Les pénis, alors c'est pas des pénis, c'est des pseudo-pénis, c'est des clitoris en forme de pénis. Ça, c'est beaucoup plus difficile.
Alors, les vaches ont des cornes, on va commencer par le plus facile.
Alors, les vaches ont des cornes, c'est très simple, c'est quand on peut pas se cacher, il faut se battre. Basiquement, si on est une maman buffle et qu'il y a un groupe de lions qui approche, pour se défendre, on peut pas se cacher, donc il va falloir se défendre. Et donc, il va falloir avoir des compétences pour se défendre, donc une arme. Et la meilleure arme, c'est finalement des cornes. Quand on est une vache, c'est assez simple à faire. C'est assez simple à produire.
Donc là, c'est assez simple pour les cornes. Alors par contre, voilà. Pour les pénis, ou plutôt les clitoris en forme de pénis, les hyènes.
Là, c'est vraiment une énigme, parce que ce serait assez simple à expliquer si c'était juste une espèce de mauvais clitoris, une mauvaise copie. Si c'était la version hongkongaise du clitoris, du pénis, ça serait assez simple.
Donc t'aurais hérité les hyènes, ça serait simple. Mais c'est pas ça.
Mais c'est pas ça. En fait, c'est pas un accident hormonal, c'est vraiment une copie parfaite avec, on a les testicules qui sont reproduites avec les épines de kératine. Donc sur les pénis des mammifères, il y a des épines de kératine. Et même sur ce clitoris, donc ce faux pénis, il y a aussi des épines de kératine. Donc c'est vraiment une copie, un duplicata parfait. Et comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Pour l'instant, on n'en sait pas trop. On ne sait pas trop grand-chose là-dessus.
Oui, à quoi ça sert? Enfin, voilà, à quoi ça a servi? Quelle est la fonction?
Est-ce que ça a été un avantage sélectif? Est-ce que ça a été un avantage reproducteur? Pour l'instant, on ne sait pas trop. Forcément, oui, quelque part, puisque c'est de l'évolution, et donc ça fonctionne aussi avec de la sélection naturelle. Donc, mais comment est-ce que c'est arrivé là?
Alors, les chercheurs se posent la question et rapprochent ça des tétons chez les hommes mâles.
Alors, les chercheurs eux-mêmes ne font pas forcément le lien. Moi, j'ai essayé de le faire dans le livre. Les tétons, par exemple, des hommes mâles, c'est clairement un accident de développement, ou dans le sens où ils sont déjà présents chez le fœtus. Au moment où le fœtus devient un homme, parce qu'il y a des salves d'androgènes qui le font devenir un homme, bah, ils sont déjà là. Donc, c'est pas la
peine. Parce qu'en fait, au départ, faut juste rappeler qu'on est tous des femelles, ouais, hein, c'est ça. Et on devient un homme ensuite.
C'est ça. Et donc, dans ce sens-là, les tétons des hommes, c'est une question de développement. Mais en ce qui concerne les femelles, c'est pas juste une question de développement, c'est pas explicable, comme je disais avant, avec un simple accident hormonal. C'est pas juste une salve d'androgène qui a transformé un clitoris en pénis. Il y a quelque chose. Pour que ce soit une copie aussi parfaite, il faut qu'il y ait eu une pression de sélection. Et quelle est-elle?
Les chercheurs cherchent toujours. Pourquoi les femelles hyènes ont des pseudo-pénis?
Il n'y a pas beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, mais ils travaillent dessus très fort.
Est-ce que vous ne seriez pas vous-même un peu manipulateur ou menteur comme les mâles antilopes topis du Kenya, c'est ça?
Oui, les mâles topis du Kenya qui font semblant de dire qu'il y a un danger dans les buissons pour que la femelle évite de sortir du groupe et qu'ils puissent la rassurer, je pense. En tout cas, pour pouvoir avoir des relations sexuelles avec elle. C'est le but, lui faire peur, lui dire ne va pas là-bas, ne va surtout pas là-bas, il y a des lions, reviens à l'intérieur du groupe.
Voilà ce que font ces mâles.
Voilà ce que font ces mâles, voilà.
Et il y a aussi des gazelles qui jouent au dé, enfin ça c'est votre expression hein, dans ce livre, mais au fond c'est l'importance du hasard aussi en biologie évolutive.
Ouais. Alors le hasard c'est extrêmement important, ça joue à toutes les échelles, des échelles génétiques, moléculaires à l'intérieur de la cellule, à l'échelle de l'individu et puis à l'échelle des écosystèmes, il y a du hasard. Et sans ce hasard en fait on serait pas là où on est aujourd'hui, donc... On a tendance à en fait l'oublier ou à le faire passer pour une espèce de bruit, alors qu'il est au cœur vraiment de l'évolution. Et...
Donc tout n'a pas forcément une utilité, il y a aussi du hasard.
Il y a du hasard qui sert de matériau, de matière première à l'évolution, et ensuite par-dessus vient en général, pas toujours, de la sélection naturelle qui fait le tri entre les différentes propositions, on va dire. Et la sélection naturelle garde les meilleures propositions.
Autour de la question, pourquoi les zèbres ont des rayures? Suspense insoutenable. On patiente entre le zèbre, la girafe et les antilopes du côté des hyènes. Et oui, on les retrouve, nos hyènes, avec Nan, la hyène, Ramata Diakité sur RFI. Ramata Diakité sur RFI. Autour de la question, pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Question loufoque, toujours en débat dans la communauté scientifique, car comme nous le découvrons avec notre invité, le biologiste et blogueur, blagueur de science Léo Grasset, les chercheurs en biologie évolutive n'hésitent pas à se poser les questions les plus insensées, et même à passer des heures à étudier des bouses de vaches. C'est l'éclairage d'un autre passeur de science animalière, Marc Giraud, auteur de Safari dans la bouse.
C'est un écosystème. C'est vraiment ça, c'est un lieu de chasse pour les scatophages du fumier qu'on appelle très vulgairement les mouches à merde, qui sont de magnifiques petites mouches jaunes. Bon, les mâles sont un peu plus jaunes et les femelles un peu plus grises. Les mâles arrivent en premier et ils sont plus nombreux, ça manque de filles chez les mouches à merde. Donc dès qu'ils en voient une, ils se l'accaparent. Donc c'est leur rendez-vous amoureux. Ils sont assez brutaux, hein. Et il y a un scientifique anglais qui s'appelle Parker qui a observé comme moi des dizaines et des dizaines d'heures les mouches à merde en train de copuler sur les bouses. Il a fait une découverte scientifique qu'on appelle la compétition spermatique, c'est-à-dire que comme les femelles sont rares et volages, les mâles se battent pour transmettre leur descendance. Et il y a d'autres scientifiques encore plus pointus qui ont congelé des mouches à merde en plein accouplement. Ils les ont coupées en tranches pour voir comment ça se passait à l'intérieur.
Pendant l'accouplement, oui, c'est ça.
Faut le faire, hein. C'est des vrais chercheurs et Et ils se sont aperçus que la femelle avait un mécanisme de pompe pour sélectionner le sperme du mâle dont elle voulait qu'il soit son géniteur, le géniteur de ses enfants.
On fait de sacrées découvertes dans les bouses de vaches et les chercheurs n'hésitent pas à se salir les mains, Léo Grasset.
Ah oui, non, là, on y va les deux mains dedans, il n'y a pas de problème.
C'est un bon sujet d'étude, vous passeriez des heures devant une bouse de vache ou d'autre d'ailleurs?
Bien sûr. Alors c'est rigolo parce que j'avais un épisode justement de Dirty Biology prévu là-dessus, c'est que ne serait-ce qu'en paléontologie par exemple, tout ce qui est les excréments, c'est extrêmement important, révélateur pour connaître la vie des dinosaures par exemple. On sait ce qu'ils mangeaient, donc on sait quelle espèce de plante il y avait à l'époque, etc.
En retrouvant des excréments fossilisés.
Des fossilisés, des coprolites, ouais.
Alors parmi les animaux qui aiment bien justement ce genre de matière, il y a les bousiers auxquels vous consacrez un petit chapitre dans le cou de la girafe. Drôle d'insecte qui se repère comment ? La voie lactée, c'est ça ?
Voilà, alors quand il n'y a plus d'étoiles et qu'il n'y a plus rien d'autre que la voie lactée, il utilise la voie lactée pour rentrer au terrier. Sinon, dès qu'il y a la lune, il peut utiliser la lune. Mais il arrive à détecter en fait la faible lueur de la voie lactée pour rentrer au terrier.
Mais en comment il poussant sa boule de merde, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Mais comment il fait le bousier ?
Bah, il a des yeux, il a une sensibilité très très forte en fait pour détecter la bande blanche de la voie lactée.
Et comment les chercheurs ont découvert ça ?
Ah, ça c'est rigolo, c'est des chercheurs sud-africains et je crois suédois, donc une équipe qui vient des Antipodes, et ils ont testé. En nature, en savane, ils ont pris un bousier, ils ont fait un petit cercle, et ils ont regardé comment, selon les conditions environnementales, donc selon l'état du ciel, comment se dirigeait le bousier. Puis ils ont mis un petit casque sur la tête.
Et du coup, un petit casque sur la tête du bousier qui pousse sa petite boule.
Voilà. Et du coup, ils pouvaient plus rien voir le bousier, et ils se sont rendus compte, il poussait dans tous les sens, il partait dans toutes les directions. Il partait plus en ligne droite. Et ensuite, ils ont répété l'expérience en planétarium. Donc cette fois, ils pouvaient contrôler exactement les étoiles qu'ils voulaient allumer. Et là, ils se sont rendus compte que oui, ils pouvaient utiliser certaines étoiles. Et surtout, ils pouvaient utiliser la voie lactée quand il n'y avait plus rien d'autre.
Donc le bousier utilise la voie lactée dans ses déplacements. Alors on va rester un peu sous terre dans les termitières aussi qui font, je ne sais pas si on peut appeler ça de la musique, mais enfin des jolis mixages acoustiques.
Ouais, des mixages acoustiques, oui, pour respirer, tout bêtement. En fait, c'est ça. Quand on est dans une termitière, quand on est dans le nid, donc une termitière ça peut être assez profond, le nid peut être un mètre sous terre, voire plus, il faut réussir à respirer, donc parce qu'on produit, on est là en termite, on est à plein, on est à plusieurs millions, et on produit un maximum de dioxyde de carbone, et il faut réussir à un moment à transformer, à remplacer tout ce dioxyde de carbone par de l'oxygène. Et alors comment est-ce qu'on fait ça quand le seul accès à la surface c'est des petits tubes, qui peuvent être parfois très très fins, les termites ont découvert... Petit à petit, au fur et à mesure des générations, là encore, elles ont inventé la maison bioclimatique. Elles ont réussi.
La maison bioclimatique,
vraiment.
Ouais,
les termitières sont des trésors de complexité et d'ingéniosité. Vraiment, il y a en fait des transferts d'air qui se font entre la cheminée, donc qui est en haut, et le nid qui est tout au fond. Et ces transferts d'air passent par des phases. Il y a des endroits en fait où il y a de l'air qui est pur et au fond c'est de l'air vicié. Et à l'interface entre les deux, il se passe tout un tas de mouvements qui permettent à la termitière de respirer. Et en fait, c'est l'architecture de la termitière qui va permettre de créer ces espèces de mouvements, ces perturbations qui vont permettre de mixer l'air pur avec l'air vicié, qui va permettre à la termitière de respirer. C'est vraiment l'architecture, la conformation des tubes qui va permettre de faire ça. Notamment, on pense peut-être par de la vibration. Peut-être que les tubes vibrent. Donc ce serait en fait les termites qui construiraient les tubes de telle façon à ce que quand le vent il s'engouffre dedans, ça les fasse vibrer, les trous dans la terre qui vibreraient et qui permettraient en fait à la masse d'air de vibrer avec la masse d'air viciée, et ces deux masses se mélangeraient et permettraient aux termites qui sont dans le nid de respirer.
Ça serait les vibrations qui permettraient au fond aux termites de respirer.
C'est ça, les vibrations de la termitière.
Les vibrations intermédiaires. Donc ça, c'est extrêmement intéressant pour les chercheurs qui découvrent ce phénomène-là, mais aussi parce que on appelle ça le biomimétisme, la bio-inspiration. Ça oui. peut inspirer aussi. Alors pour le coup, c'est de la recherche très fondamentale, pas farfelue du tout, et qui peut avoir des applications très pratiques pour nous humains.
Oui, voilà. Alors là, on a par exemple le cas de ce chercheur qui a travaillé sur ces termitières, et il est allé proposer ses idées à des miniers pour essayer de ventiler les mines de grande profondeur, parce que c'est quand même assez compliqué de ventiler une mine, surtout quand elle fait 10 km de profondeur. Et ben on pourrait par exemple utiliser du mixage acoustique ou les autres mécanismes qu'il a découvert dans les termitières.
Et en plus on pourrait faire de la musique avec, vous croyez, le mixage acoustique, on sait jamais.
Ça serait sympa pour les mineurs en tout cas.
Pour les mineurs de faire la musique en plus avec la tuyauterie qui leur permettrait de respirer. Bon, en attendant, nous n'avons toujours pas répondu autour de la question pourquoi les zèbres ont-ils des rayures. On va se retrouver, si vous le voulez bien, Léo Grasset, dans 3 minutes juste après le flash d'info pour chercher des réponses. Pouvez-vous aussi improviser les vôtres, hein, amis auditeurs, autour de la question pourquoi les zèbres ont-ils des rayures. À tout de suite après le flash en compagnie de Drôle de Zèbre, évidemment. À tout de suite, Léo.
À tout de suite.
Pour nous contacter, autour de la question @rfi.fr.
de la question.
Caroline Lachowski.
Bienvenue à vous qui nous rejoignez pour cette deuxième partie. Nous sommes en compagnie du biologiste, blogueur et blagueur de science Léo Grasset qui nous fait partager toutes les questions loufoques que se posent les biologistes de l'évolution, les savants dans la savane, pour reprendre le sous-titre de votre livre, Léo, qui vient de paraître aux éditions du Seuil, le cou de la girafe autour de la question « Pourquoi les zèbres ont-ils des rainures ?» Question que vous vous posez dans votre dernière chronique de Dirty Biology, visionnable sur YouTube. On en écoute un extrait tout de suite.
Pourquoi les zèbres ont-ils des rayures? Et au passage, on tentera de répondre à la question subsidiaire, mais pourquoi est-ce que je devrais en avoir quelque chose à battre des rayures de ces canassons africains? La question de l'origine des rayures est tellement simple en apparence que l'on s'attendrait à ce que la réponse soit gravée dans le marbre depuis longtemps. Eh ben non, on sait pas. Et là, vous allez me dire, comment ça on sait pas? Il y a pas longtemps, moi j'ai lu un article sur le sujet et il disait qu'on savait exactement à quoi servaient les rayures. Et en effet, en février de cette année, sortait encore une publication scientifique sur l'origine des rayures et on a pu lire un peu partout dans la presse de vulgarisation que le pelage des zèbres était enfin un mystère résolu. Ce serait une excellente nouvelle et on pourrait ranger le dossier en toute confiance si seulement ça n'était pas la 250e fois qu'un tel effet d'annonce avait lieu. Et ça fait 130 ans que ça dure.
Ben voilà, ça fait 130 ans que ça dure, 130 ans que des chercheurs, et pas des moindres, hein, Darwin et Wallace, les premiers, se sont demandé pourquoi les zèbres ont des rayures.
Oui, oui, c'est marrant, c'est encore un sujet de débat aujourd'hui.
Alors qu'est-ce qu'il y a comme hypothèse? Il y a un de nos auditeurs en Zambie qui nous dit, mais peut-être que les rayures serviraient de camouflage, le noir et blanc peuvent troubler la vue des prédateurs, c'est une bonne piste ça?
Alors, il y a plein de types de camouflage différents, il y a une hypothèse dans laquelle les rayures font un camouflage avec le fond, par exemple avec les herbes. Cette hypothèse est assez improbable, mais parce qu'elles sont blanches et noires, donc en tout cas en journée ça marcherait pas trop, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets blancs et noirs contre lesquels se camoufler.
Oui, donc ça sert pas à grand chose.
Par contre, éventuellement, dans les heures de pénombre, ça pourrait fonctionner, puisque dans ces heures-là, il n'y a plus vraiment de couleurs, donc avoir des rayures, ça pourrait permettre de se cacher contre un fond végétal, par exemple des buissons. Mais pour l'instant, c'est pas vraiment une hypothèse qui est extrêmement testée, elle est pas à la mode. Pour l'instant, c'est un autre type de camouflage qui est plus à la mode. C'est ce qu'on appelle du camouflage disruptif.
Donc, disruptif.
Disruptif, c'est du camouflage qui brouille la vision des gens.
Ah, quand on regarde un peu des rayures, voilà. Enfin des choses un peu trop longtemps, ça fait mal aux yeux.
Exactement. Mm-hmm. Mais c'est cette idée-là. En fait, c'est un objet qui passe avec des rayures qui passent très vite. On a beaucoup de mal à le viser proprement, à le viser correctement. Par exemple, en ce moment, c'est sur les voitures de test, les prototypes de voitures de course. Quand elles font des tests sur piste, parfois elles sont peintes avec des rayures, et c'est pour embêter en fait les paparazzi, parce que
qu'ils puissent pas les photographier comme il faut,
pour
les repérer,
de bien viser, et aussi pour l'autofocus en fait des appareils photo qui arrivent plus du tout à faire la mise au point sur les voitures.
Donc ça serait une stratégie empruntée aux zèbres, enfin.
Voilà, exactement, pour empêcher les lions de faire l'autofocus sur les zèbres quelque part.
Donc ça c'est la piste qui est la plus privilégiée aujourd'hui.
Alors elle était assez à la mode.
Elle a même servi, je crois d'ailleurs, il y a eu un moment des camouflages, enfin des, il y a les tanks de la, de non, il y a, il y a des camouflages, enfin il y a des camouflages sur des voitures militaires. Qui ont été à la manière des zèbres.
Et il y a eu les navires de guerre surtout.
Voilà, c'est ça.
C'était pendant la Première Guerre mondiale, avant le radar, parce qu'après le radar, c'est devenu tout d'un coup complètement inutile, parce qu'on faisait plus la visée à l'œil, on faisait la visée au radar. Mais quand on faisait encore la visée à l'œil, donc c'était avec un appareil pour gérer la distance, le fait d'avoir des rayures sur un bateau et puis des motifs cubistes qui en fait brisent les contours, empêcher les gens de faire correctement une estimation de la distance et du mouvement du bateau. Et du coup, on se retrouvait à louper. Alors, en pratique, on sait pas vraiment si c'était très très efficace, puisqu'il y a jamais eu vraiment d'études sur les bateaux pour savoir si les bateaux rayés étaient moins touchés que les bateaux unis.
Est-ce que les zèbres sont moins touchés que les autres animaux unis?
Eh ben non, pas vraiment. Enfin, en tout cas, pas selon mon expérience, mais je sais pas s'il y a eu un gros travail là-dessus pour savoir s'ils étaient plus ou moins les proies. Moi, selon mon expérience, les zèbres ont tendance à mourir pas mal quand même, surtout les petits, quand les lions ont envie de les manger.
Oui, les lions, ils arrivent à les attraper malgré leurs rayures. Donc, c'est une hypothèse, mais c'est pas vraiment une piste.
Mais en fait, c'est pourquoi pas, ça pourrait aussi avoir été une adaptation qui a marché un certain temps et contre laquelle les lions se sont adaptés au fur et à mesure du temps. Donc, on arrive peut-être dans un moment où en fait, on a une adaptation qui est devenue inutile. Elle a marché à un moment et elle est devenue inutile maintenant. Pourquoi pas?
Et il y avait une autre piste pour protéger leur peau des piqûres de moustiques.
Ah oui, alors il y a ça aussi, c'est que en fait La plupart des mouches, comme les temps ou les mouches tsetse, qui sont une autre famille de mouches, ils ont une vision polarisée. Les temps en particulier ont une vision polarisée. Et le truc avec les rayures, c'est qu'elles renvoient la lumière dans deux directions différentes. Les rayures blanches envoient la lumière dans une direction et les rayures noires renvoient la lumière dans une autre direction. Et donc pour nous, ça ne nous dérange pas parce que nous, on voit la lumière pas polarisée. Mais comme les temps, eux, voient la lumière polarisée, ils voient pas le zèbre de la même façon que nous, en fait. Et pour eux, c'est vraiment quelque chose qui est à moitié camouflé, en fait.
Ah, ils voient qu'une partie de la lumière.
Ils voient pas très bien. C'est très difficile d'imaginer ce que peut voir un temps, mais quand on met un zèbre en fausse couleur, et en essayant de représenter ce que voit un temps, ça fait quelque chose d'absolument psychédélique.
Parce que le temps, il est complètement allumé quand il voit le zèbre, mais du coup, il est confus, il n'arrive pas à le piquer.
Il a du mal à distinguer le zèbre du fond, j'imagine. Et enfin, voilà. Du coup, il se pose beaucoup moins. Ça, c'est une expérience qui a été faite en 2012 avec, par des chercheurs qui sont tchèques, je crois, où ils ont pris des maquettes. Ils ont pris des maquettes en forme de chevaux. Il y a des maquettes qu'ils ont laissées en marron, et puis il y a des maquettes qu'ils ont peintes avec des rayures de zèbre. Voilà. Et ensuite, ils ont mis un peu de colle sur les maquettes et ils ont compté le nombre de temps qui finissait sur les maquettes, et ils se sont rendus compte qu'il y avait moins de temps sur les maquettes qui étaient rayées.
Bon, bah donc si on n'a pas répondu tout à fait à la question, toujours pas, hein, pourquoi les zèbres ont des rayures, on pourrait peut-être s'en inspirer comme anti-moustique, enfin, ou comme anti-temps.
Oui, tout à fait. C'est ça encore. Peut-être que c'est pas la vraie raison, mais en tout cas, pour nous, c'est pratique.
Ça peut être utile. Voilà. Autour de la question pourquoi les zèbres ont des rayures et les girafes ont des longs cous, on ne peut pas rater le ratel, animal effrayant, monstrueux que vous m'avez fait connaître, Léo Grasset.
Ah, il n'est pas assez connu, cet animal. C'est...
Bon, alors, c'est quoi le ratel? Il est terrifiant. C'est le pire animal de la création, on peut le dire comme ça?
Je ne sais pas si c'est pire, mais en tout cas, c'est mon préféré.
C'est votre préféré, en plus.
Ah, oui, il est fascinant. C'est fascinant d'avoir un animal aussi petit et aussi hargneux, en fait. C'est comme le diable de Tasmanie. Il n'a aucune limite. On m'a raconté quand j'étais sur le terrain au Zimbabwe qu'il y avait des personnes qui avaient vu un ratel attaquer un éléphant, lui sauter sur la trompe.
Donc c'est un petit rat, enfin c'est un rat.
Ça fait la taille d'un gros chat, on va dire, 70 centimètres sans compter la queue. Ouais, c'est pas très gros, c'est même relativement petit, c'est un petit chien.
Et en plus quand ça attaque pas n'importe où et ça attaque n'importe qui.
Ah, ça vise très bien, ça vise les testicules.
C'est ça.
Ouais, c'est un point faible. Il est malin.
Et donc du coup, il peut attaquer les testicules des plus gros animaux.
Il y a plein d'histoires de ce genre. Il y a des relevés. Alors, le problème, c'est que c'est des vieux relevés qui ont été faits par des biologistes de terrain, donc il y a quelques années quand même, il y a 50 ans, mais qui racontent comment un ratel a vidé un buffle mâle de son sang en lui le châtrant, basiquement, en lui enlevant les testicules. Et bon, il est mort d'une hémorragie. Et le ratel est sans doute parti avec son prix et a dû manger, je sais pas, son prix quelque part où il était en sécurité. Et le buffle en est mort.
Et le buffle en est mort. Et ça, c'est le ratel. Et donc, c'est votre animal préféré,
oui,
c'est
oui.
ça?
Oui, oui. En fait, c'est mon animal préféré parce que, quelque part, il est, c'est un tank. C'est vraiment un tank fait animal. Il a absolument.
Un tank?
Oui, c'est vraiment un tank. D'ailleurs, il y a un tank de l'armée sud-africaine qui est nommé en fonction de.
Qui s'appelle
en
ratel.
En l'honneur du ratel, voilà. Ça en dit long.
C'est un tank parce qu'en fait, personne ne peut. Lui, il peut agresser tout le monde. Et
exactement.
Et personne ne peut l'agresser.
Il a tout un tas d'adaptations qui lui permettent de se retourner dans des mauvaises situations. Par exemple, il a une peau très 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 lâche autour du cou en particulier. Donc quand, par exemple, un léopard va attraper pour essayer d'en faire son repas, il va pouvoir se retourner à l'intérieur de lui-même, entre guillemets. Il va pouvoir prendre beaucoup de liberté avec sa peau et griffer le visage du léopard et sortir de cette situation.
Et il sait courir en arrière, pas
il
c'est ça
Il sait courir en arrière, il se fait aider avec des animaux, avec des oiseaux. Des oiseaux le suivent, qui pourraient peut-être même l'aider à lui trouver des terriers où il se nourrit, dont il se nourrit.
Il est monstrueux, ce ratel. Il est pire que nous les hommes, quoi, au fond.
Si seulement on pouvait avoir plein de ratels, un ratel par habitant, ça serait, je pense, un monde meilleur.
Oui, c'est ça. Bravo, Léo Grasset. Bon, dans la série des animaux incroyables et peu ragoûtants, je ne sais pas si vous avez déjà croisé le Rhychterope. Ça vous dit quelque chose?
J'en ai pas vu, mais j'ai des amis qui en ont vu.
Ah, Léo Grasset. Écoutez voir comment il se présente, cet animal-là. Nous aussi, on a des amis qui l'ont vu. C'est Joseph Okouyi, notre ami, le conservateur en chef des parcs du nord du Gabon, que l'on avait rencontré au Gabon, et qui nous a mis sur sa piste en se bouchant tout de même un tout petit peu le nez.
Le Rhychterope, c'est vraiment un animal, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ça a la tête d'un cochon, mais c'est pas un cochon, et ça a le corps d'un pangolin géant. C'est une espèce assez présente dans nos forêts, mais elle est très très difficile à observer. Et pour la petite histoire, les pygmées, pour chasser le Rhychterope, parce qu'il vit dans des terriers, donc ils savent que l'animal est dans le terrier, et ils essayent d'ouvrir le trou pour aller le choper. Mais le problème avec le Rhychterope, c'est qu'il a des gaz assez toxiques, si on peut dire. Et donc, on a des chasseurs pygmées qu'on a retrouvés morts, asphyxiés, dans le terrier en essayant d'attraper le ichtyrope. Donc voilà, donc faites attention. Et pour vous dire à quel point cet animal est dangereux, même les crottes de ichtyrope, c'est un poison hyper puissant. C'est un animal qui a une digestion assez partielle, donc les crottes sont très riches en ammoniac. Et donc quelqu'un peut très bien empoisonner quelqu'un en juste prenant la crotte sèche et mettre dans un verre.
Vous préférez le ichtyrope ou le ratel, Léo Grasset?
Le ichtyrope est très cool, mais je pense que je vais rester sur le ratel.
Ah ouais, ça reste votre animal préféré. Autour de la question pourquoi, bah pourquoi le ratel justement, et pourquoi aussi les éléphants vivent en dictature et le buffle en démocratie. Voilà d'autres animaux qui nous parlent politique dans la savane.
Alors ça c'est très intéressant en fait, la façon dont les groupes d'animaux prennent des décisions. On s'est rendu compte, c'est un domaine de recherche qui est quand même relativement récent.
Comment ils se déplacent en groupe, voilà, et comment ils prennent des décisions?
Comment ils prennent des décisions? Par exemple, on est un groupe d'éléphants, et puis à quel point d'eau est-ce qu'on va aller ce soir? Où est-ce qu'on va aller manger après, etc. Et ça, c'est un domaine de recherche qui est tout naissant, et on se rend compte qu'en fait, les animaux ne prennent bien sûr pas des décisions au hasard, mais qu'en plus, ils sont super forts dans la façon de les prendre, parce qu'en général, c'est les bonnes.
Et ils prennent les bonnes décisions pour tout le troupeau, en fait.
Voilà, et c'est très intéressant. C'est comment est-ce qu'on fait pour prendre des bonnes décisions dans un contexte où il y a vraiment une mauvaise décision et une bonne décision. Par exemple, il y a un point d'eau où il y aura plus de prédation, il y aura plus de lions, et il y aura un point d'eau qui sera plus tranquille, plus sécuritaire. Comment est-ce que le groupe d'éléphants va faire pour choisir? Comment est-ce qu'il va faire pour choisir le groupe, le point d'eau plus sécuritaire?
Alors, comment font les éléphants?
Alors, ce qui est très fort, c'est que les éléphants, ils vivent une dictature. Il y a une matriarche. Donc une femelle.
Une matriarche.
Voilà, c'est la femelle, la plus vieille femelle du groupe, qui a une expérience. Ben, en général, les éléphants peuvent vivre très vieux, mettons 60 ans. Donc quand on a une femelle qui a 50 ans, elle a 50 ans de vécu. Donc elle a vécu plein de choses. Et puis on dit une mémoire d'éléphant, c'est pas pour rien, c'est qu'effectivement les éléphants ont une très très bonne mémoire. Donc quand une matriarche est là à se demander si elle va aller plutôt à ce point d'eau ou à ce point d'eau-là, elle va choisir, et elle va choisir en fonction de son expérience. Et en général, c'est tout à fait avantageux pour le reste du groupe, donc il va suivre.
Tout le groupe va suivre, voilà, la matriarche.
Voilà, c'est un groupe de 40, 50 individus qui vont suivre une seule matriarche.
Chez les buffles, c'est différent.
Chez les buffles, c'est l'inverse. T'es vraiment à l'opposé extrême, c'est-à-dire qu'on a vraiment une situation de vote où il n'y a pas un individu qui a plus de...
Voilà. Les buffles votent, d'accord.
Alors le vote chez les animaux, c'est pas forcément... On écrit quelque chose sur un papier et on le met dans une urne, mais on va faire du vote à la main levée, entre guillemets. Donc on va prendre une posture, on va plutôt se décaler du groupe et aller dans la direction où on aimerait aller. Et de fil en aiguille, d'autres vont rejoindre, etc. Donc on va aller petit à petit vers cette direction-là. C'est ce qui se passe pour les buffles, où les femelles buffles, elles prennent un angle, elles orientent leur corps en fonction de la direction où elles aimeraient bien aller. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la direction générale du groupe va être la moyenne des directions de chaque individu. C'est vraiment un vote à la moyenne.
C'est un vote extrêmement juste, on devrait peut-être nous s'en inspirer. C'est un vote dans nos urnes.
Alors moi je trouve ça très intéressant, parce que justement c'est des systèmes qui sont politiques quelque part, parce que c'est des systèmes de gestion, et qui en général sont extrêmement adaptatifs, donc ils permettent de prendre des bonnes décisions. Oui, donc c'est juste. Pourquoi pas s'en inspirer?
Il faudrait voir du côté des buffles. Hein. Autour de la question, pourquoi les buffles vivent en démocratie? Et pourquoi, on va revenir sur les gazelles, les impalas font des holas, c'est ça?
Les impalas, ils font des vagues, comme dans les stades de foot. Ils lèvent la tête.
C'est des gazelles,
oui,
ça.
Voilà, c'est des gazelles, ouais. C'est ce qu'on imagine vraiment, la gazelle typique du roi lion, avec le ventre un peu beige et puis le corps un peu marronâtre. C'est vraiment celle-là. Et ceux-là, ils font des vagues de vigilance. Donc, il va y avoir, comme dans un stade de foot, la vigilance qui se propage d'individu en individu, par exemple de gauche à droite. Et les individus de gauche commencent par la vigilance et, de fur et à mesure, les têtes se lèvent.
Et donc, ça fait une hola d'impala.
Une hola de vigilance, oui. C'est un peu ce système-là qui a été observé. Alors, c'est rare de voir un phénomène comme ça aussi propre que dans un stade. Mais en pratique, les mécanismes qui sont à la base de la vigilance chez les impalas, ou chez d'autres antilopes, chez les cobas croissants aussi, ou les koudous, c'est les mêmes. C'est-à-dire que c'est vraiment de la copie du voisin. Comme dans un stade de foot.
Copie du voisin, et ça marche.
Et ça marche.
Autour de la question, pourquoi les zèbres ont des rayures et comment participer à une hola d'impala, on va s'arrêter dans la savane, d'Ali Farkatouré sur RFI.
d'un autre pays. Adieu, ça va. Un petit boulot. Oui, je suis un d'autres pays. Adieu, ça va.
Adieu, Savane, Ali Farka Touré sur RFI. Autour de la question pourquoi les zèbres ont des rayures et autres questions de science loufoque que soulèvent les savants dans la savane, pour reprendre le sous-titre de votre livre, Léo Grasset, je vous propose d'écouter un dernier éclairage. C'est celui de la philosophe et éthologue Vinciane Després, qui s'intéresse précisément aux questions que les chercheurs posent aux animaux qu'ils étudient et à la manière dont ces questions font évoluer les uns comme les autres. À question bête, réponse bête, et à question maline, réponse de bête maline. On l'écoute.
Quand les animaux acquièrent des compétences, c'est souvent parce qu'un chercheur a pensé à leur poser une question qui était inédite. On voit que, par exemple, dans les années 60, les singes vont passer l'épreuve en laboratoire, dite de la tache verte, ce qui permettrait de penser qu'ils se reconnaissent dans un miroir. Pour rappel, cette épreuve, on habitue un chimpanzé à voir ce que c'est qu'un miroir, et puis on l'endort, on lui peint une tache verte sur le front, et puis on le reconfronte, éveillé bien entendu, au miroir. S'il efface la tache, c'est donc bien qu'il a perçu que la tache était sur lui-même et non pas sur un congénère qui serait face à lui. Et puis donc de là, on va en tirer certains scientifiques. Il y aura évidemment des controverses, hein, comme d'habitude. Certains vont dire, mais non, ça ne veut pas dire que les animaux se reconnaissent. Et même s'ils se reconnaissent, vous ne pouvez pas affirmer qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Là où d'autres scientifiques vont être beaucoup plus catégoriques en disant, mais si, justement, ce serait bien le signe et le témoignage qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Et puis qu'est-ce qu'on voit ? Quelques temps après, des chercheurs vont se dire, mais tout compte fait, si les chimpanzés peuvent faire ça, les baleines, elles sont quand même très intelligentes aussi. Quels sont les dispositifs qui permettraient aux baleines de se reconnaître dans un miroir? On va créer des grands miroirs, on va essayer, les miroirs seront trop petits, donc ça fera plein de difficultés. Et puis un beau jour, les baleines accèdent à la reconnaissance. Et puis d'autres scientifiques se disent, ouais, enfin si les baleines sont arrivées à le faire, probablement les dauphins pourraient y arriver. Et ainsi, de proche en proche, on va arriver finalement à ce que des animaux, même inattendus, c'est-à-dire par exemple des pies, dont on n'attendait pas du tout qu'elles se reconnaissent dans le miroir, puisqu'on avait dit, ah non, ça c'est typiquement un truc de mammifère, il faut un néocortex très développé, les oiseaux ne sont pas dans la bagarre. Et qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? C'est que des chercheurs vont se dire, oui, mais ils sont quand même très sociaux, et la socialité, ça développe des compétences plus ordinaires, donc peut-être que cette compétence... Et puis on fait passer le test à des pies. Et qu'est-ce qu'on voit? Certaines pies se reconnaissent. Deux parmi les cinq pies qui ont été testées se reconnaissent très clairement dans le miroir. Et qu'est-ce que disent les chercheurs? Nos pies ont enfin franchi le Rubicon cognitif.
Bon, les pies en particulier, bonne nouvelle, et les oiseaux en général ont franchi beaucoup de Rubicon cognitif et au Grasset. Les chercheurs leur reconnaissent de plus en plus de capacités parce qu'ils leur posent peut-être les bonnes questions.
Exactement, ouais. C'est vraiment en fonction des questions qu'on va poser, on va avoir des réponses différentes.
Sur les oiseaux, c'est étonnant ce qu'on découvre aujourd'hui.
Oui, les corvidés en particulier, donc toute la famille des corbeaux, c'est presque effrayant en fait. Ils sont très 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 intelligents, ils sont capables de tordre des fils de fer pour en faire des crochets, etc. Et donc ils sont capables de créer des outils pour sortir de situation. C'est...
Ils sont capables de faire casser leur noix par des automobilistes
par
au
des,
feu rouge, c'est ça?
Oui, au Japon. Ils, ouais.
Au Japon,
ça
oui.
Ça a été observé, voilà. Ouais.
Ils attendent de le, enfin, ils mettent leur noix, ils attendent.
Voilà, au feu rouge, ils posent la noix, ils attendent que le feu passe au vert, les voitures passent. Et au deuxième feu rouge, ils retournent rechercher le contenu de la noix qui a été cassée par les voitures.
Donc ils ont tout compris, ils ont compris comment fonctionnaient nous les humains, nous, c'est ça, hein? Ça,
bah, en tout cas, ces corbeaux qui ont été observés là, donc c'est relativement local au Japon, oui. Mais c'est effrayant, enfin, c'est extrêmement intéressant, mais c'est extrêmement impressionnant aussi.
Impressionnant aussi les éléphants, hein, on retourne dans la savane que vous aimez bien et que vous connaissez bien, les éléphants qui ressentent les secousses sismiques bien
oui.
avant nous.
Oui, alors ça c'est des travaux qui sont très récents aussi, ça a peut-être 10 ans, pas plus. Donc c'est une chercheuse, Caitlin O'Connell, qui a tout simplement planté un bâton, enfin un capteur à ondes sismiques dans le sol, donc c'est des ondes qu'on appelle les ondes de Rayleigh, et elle s'est rendue compte que y avait de la communication. C'était vraiment un canal de communication, le sol était...
Pour les éléphants. Pour les éléphants.
Elle s'est rendue compte que c'était les éléphants qui émettaient, enfin c'est une hypothèse relativement simple, puisque les éléphants produisent des grondements très très sourds, ce qu'on appelle en anglais les rumbles, et c'est quelque chose qu'on entend et qu'on sent aussi quand on est près d'un éléphant, c'est quelque chose qui transperce. Mais c'est vrai que c'était pas si finalement étonnant de se dire que ça pouvait aussi passer par le sol, et oui, ça passe par le sol, et c'est même un canal privilégié de communication par le sol.
C'est-à-dire qu'il y a une communication propre aux éléphants, voilà. Qui passe par le sol à coup de vibration sismique. Communication sismique.
Voilà.
Animaux aussi plus sensibles qu'on l'imaginait.
Mais en fait, c'est rigolo parce que c'est le cas des éléphants, mais on s'est rendu compte aussi qu'il y a d'autres animaux, qui font de la communication de ce type.
Par exemple.
Il y a des rataupes qui cognent leur tête contre le sol pour
se dire des choses.
Pour envoyer des messages à d'autres.
C'est pas le calumet de la paix, c'est le séisme de la paix, c'est ça?
Cognage de tête de la paix.
Cognage de tête. Les ratels que vous aimez tant, ils communiquent comment?
Non, ils font pas ça, ils ont pas besoin de communiquer.
Ils sont pas très sociaux,
les ratels, ils ont des énormes territoires et ils vivent tout seuls dedans.
Et quelle recherche dont vous a le plus étonné, parce que vous êtes Léo Grasset, non seulement un chercheur, mais un chercheur de recherche.
Bonne question. Je sais pas. Je pense que c'est les éléphants, moi, qui me fascinent en fait le plus. C'est vraiment le
qui vous ont fait peur aussi, je crois. Vous
oui,
êtes pas
j'ai eu deux ou trois expériences sympathiques. Oui, des expériences dans la voiture bloquée, et j'avais plus de batterie, ou un éléphant s'est approché, il était un petit peu curieux et donc il était trop curieux à mon goût. Il est vraiment resté très longtemps. À me regarder.
Qu'est-ce qui vous impressionne le plus chez les éléphants? Ils sont capables de reconnaître un peu, de faire des différences entre nous, entre êtres humains.
Oui. Alors il y a cette découverte qui a été faite au Kenya. Où ils sont capables de distinguer les ethnies en fonction des ethnies, si c'est des ethnies de chasseurs ou des ethnies d'agriculteurs. Donc savoir si c'est une ethnie dangereuse ou pas du tout, parce que les agriculteurs.
Pour eux,
voilà.
Et ils font la différence.
Ils font la distinction entre les dialectes. En fait, ils sont même capables de distinguer quand ils entendent. La voix, de dire « Ah, ça c'est la voix de quelqu'un qui est chasseur, c'est dangereux. » C'est vraiment extrêmement très impressionnant. Et on se rend compte, je pense que les éléphants sont une des espèces chez lesquelles on va vraiment découvrir le plus de choses nouvelles de ce type-là. C'est-à-dire vraiment, mon Dieu, une espèce est capable de reconnaître des langues chez les humains, waouh. Et elle est capable aussi d'écouter des vibrations sismiques. Et je pense qu'on va ne faire qu'aller plus loin dans ce sens-là chez les éléphants, ouais.
Bah écoutez, Léo Grasset, vous revenez quand vous en savez plus sur les éléphants, parce que ça nous intéresse, même si ça nous affole un peu. Merci beaucoup. En tout cas, je rappelle que votre livre Le coup de la girafe, des savants dans la savane, vient de paraître aux éditions du Seuil, et que l'on peut aussi découvrir toutes vos chroniques de dirty biologie un peu sale, hein, sur YouTube. Le lien est bien sûr sur notre page. Bon retour en Thaïlande, vous partez quand, Léo Grasset?
19. Dimanche prochain, voilà.
Eh ben, bon retour en Thaïlande. On se quitte avec un morceau que vous avez choisi. Owini Sigoma Band, Wire, c'est
Wire,
ça le titre?
C'est ça.
c'est Sophie Joubert que vous retrouverez, amis auditeurs, à ce micro. Quant à nous, Guillaume Ploquin, Caroline Fillette, Lou Sauvageon et Caroline Lachowski, nous vous donnons rendez-vous lundi autour de la question comment voyager avec la lumière, belles étincelles en perspective. Surtout, restez curieux, amis auditeurs. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, l'heure d'un nouveau journal sur RFI.